Waouh, ce sera virtuose ce soir dans le rendez-vous en direct sur France Culture. Il sera question de bandoneon, de clarinette, de tango, de documentaire, de free jazz, d'Antonin Artaud, d'Oshima et même de Mouette. Avec Michel Portal à l'occasion de sa carte blanche au Théâtre du Châtelet à Paris, programme jazz et chorégraphique pour ce musicien-compositeur trois fois césarisé pour ses musiques de films, Manu Farine.
De Mozart à l'improvisation jazz, en passant par Stockhausen, retour sur le parcours d'un artiste qui se multiplie et se définit lui-même comme un musicien tutti frutti. Explication et démonstration tout de suite, puisqu'il improvisera à la clarinette en direct du studio 108.
Le plateau sera argentin, bien sûr, avec Fernando Solanas. L'intégrale de ses films documentaires et fictions sort en coffret DVD. L'occasion de revenir sur un cinéma d'un double exil intérieur et extérieur. Benoît Lagan.
Et retour sur le cinéma politique, esthétique et panoramique de Fernando Solanas, un cinéaste marqué par le grand angle et les profondeurs de champ, un cinéaste qui déteste les zooms.
Et comme chaque vendredi, on retrouvera Thomas Clair et sa chronique revue et corrigée ce soir à votre programme, Thomas.
So Film.
Le magazine. Mais d'abord, c'est l'actualité culturelle, le supplément week-end de Benoît Lagan que l'on ouvre d'abord sur le dernier son du jour, comme c'est triste, d'Adrien Azeli.
J'ai du mal à me situer parce que finalement je pars dans tous les sens. Dans la mesure où quand j'écris, j'ai très peur de m'ennuyer. Je crois que l'ennui, c'est la chose au monde qui me fait le plus peur. Donc du coup, je vais visiter absolument toutes les choses possibles, tous les thèmes possibles. L'horreur, mais aussi l'humour, mais aussi la parodie, l'amour fou, l'érotisme. Enfin bon, je pars dans tous les sens. Alors, pour situer un auteur qui part dans tous les sens comme ça, je ne sais pas comment on fait. J'écris toujours ce que j'ai envie d'écrire.
Bonsoir Adrien Azeli.
Bonsoir Laurent, bonsoir à tous.
C'est votre son du jour.
Ce qu'on vient d'entendre, c'est la voix de Gudule, alias Anne Duguel, qui vient de disparaître à l'âge de 69 ans. Gudule, c'est avant tout un parcours hors norme, auteur de plus de 300 livres, littérature jeunesse, thriller. Elle avait commencé comme journaliste pour Harakiri, Fluide du Glacial ou encore Charlie Hebdo. Ce qui raconte l'esprit qui l'animait, un esprit qu'elle a mis au service de la bande dessinée sur Radio Libertaire. Ses premiers livres, elle les publie à 40 ans. Le fantastique devient sa marque de fabrique. Ce qui frappe surtout dans sa production, ce sont ses livres pour enfants qui abordent frontalement le sida, le racisme, la sexualité des filles. En 99, elle publiait L'amour en chaussettes qui reste un de ses romans les plus connus, l'histoire d'une première expérience sexuelle avec la découverte du préservatif, un livre censuré à l'époque par plusieurs écoles privées.
Merci Adrien, c'était une bonne semaine, c'était 15 jours pour ce journal de la culture.
Excellent.
Je vous remercie, on retrouvera la semaine prochaine Zoé Sfez à votre place. Le journal de la culture le vendredi se poursuit avec le supplément week-end. Bonsoir Benoît Lagan.
Bonsoir Laurent, bonsoir à tous.
Et pour commencer, votre séquence du téléspectateur hebdomadaire.
Effectivement, comme chaque semaine, je m'arrête sur l'actualité des séries télévisées. Le mois de mai est un mois crucial aux États-Unis pour les chaînes de télévision privées gratuites qui ne vivent que de la publicité. Et on appelle ça aux États-Unis les « upfronts ».
Et alors, qui avez-vous contacté pour nous en parler cette fois?
Eh bien, pour en savoir plus sur les upfronts et tenter de nous expliquer ce qu'il en est réellement, j'ai contacté ma correspondante américaine, Séverine Barthes.
Vous la payez un peu, j'imagine, quand même, parce qu'elle est vraiment souvent à contribution.
C'est une amie et ça lui permet de rester en contact avec la France.
Bien sûr. Ouais.
Elle est spécialiste des séries, elle est universitaire, elle est installée à San Francisco et Séverine, qui connaît bien le sujet, a fait preuve de pédagogie.
Les upfronts, c'est une période où toutes les grandes chaînes présentent aux acheteurs d'espaces publicitaires le bilan de la saison passée et les nouveautés à venir afin de vendre leurs espaces. Puisqu'une des spécificités de la télévision américaine, c'est que à peu près 70-75% des espaces publicitaires de la saison à venir sont vendus au mois de mai à partir de ces annonces avec des taux d'audience garantis. Donc la chaîne dit sur tel cas, je vais mettre telle série qui fera, à mon avis, au moins tant d'audience et les prix, c'est tant. Et donc là, les acheteurs achètent les espaces pour leurs clients, qui sont les chaînes de supermarchés, les vendeurs de voitures, d'électroménagers, tout ce qu'on peut imaginer. Et soit la série fonctionne et tout le monde est content, soit le programme ne remplit pas ses objectifs. Et donc la chaîne va dédommager l'annonceur en lui donnant des espaces dans d'autres programmes. C'est pour cela, par exemple, qu'une série est annulée rapidement si elle ne fonctionne pas. Ces dernières années, le marché des upfronts, le volume d'achat au moment des upfronts, c'est à peu près 20 milliards de dollars.
Alors, au-delà de l'aspect financier, pour mieux comprendre l'importance stratégique de ce système, Séverine Barthes revient un peu plus de 10 ans en arrière. En mai 2004, à l'époque, ABC misait pour la première fois sur une future série à succès.
Quand ABC avait présenté au upfront la série Desperate Housewives, les annonceurs avaient été, par exemple, très peu convaincus. Les espaces avaient été très peu achetés, personne n'en voulait. Et Desperate Housewives a été le succès que tout le monde connaît. Et ici, on touche un point un peu particulier de upfront, c'est-à-dire que quand il y a peu d'espace, les espaces qui restent en vente sont remis en vente au début de chaque trimestre, puis au début de chaque mois. Et par exemple, pour ABC, cette année-là, c'était Desperate Housewives qui avait permis de racheter et de financer toute la grille, puisque les prix avaient augmenté excessivement après le début de la diffusion. Et donc, les chanceux avaient acheté des espaces peu chers au mois de mai lors des upfronts, et tous les autres avaient dû payer très très cher par la suite pour pouvoir être présents dans la série.
Pour autant, en 2015, le système semble se fissurer. Explication.
Ces derniers jours, on a beaucoup lu dans la presse une remise en cause de la part des publicitaires du modèle des upfronts qui vise à acheter en fait des espaces massivement très très tôt avant de savoir très précisément quel type de public sera devant telle ou telle série.
Vivre, comme dans toute bonne série à suspense, la suite au prochain épisode, rendez-vous même heure, même endroit pour la deuxième partie de ma série Séverine Barthes sur le front des upfronts, donc la semaine prochaine dans ce journal.
Eh bien, l'on poursuit ce supplément week-end avec une brève revue de presse de l'actualité culture et média de la semaine. On commence par lundi.
Et lundi, c'était Pi 13 en série. On apprenait dans les pages télévision du Parisien qu'après les Borgia, Canal+ s'intéressait dans sa nouvelle série internationale aux premières années de règne du pape fictif Pi 13, un homme complexe et contradictoire, dit-on, dans une nouvelle donc série internationale. Canal+ va produire cette série avec HBO et Sky, et ce pape sera incarné sur le petit écran par Jude Law et sera mis en scène par le cinéaste italien Paolo Sorrentino.
Mardi, bien, c'était encore l'Italie.
Oui, mardi, dans les pages canoises du Monde, le quotidien de l'après-midi consacre une pleine page intitulée Habemus Palman, consacrée au dernier film de Nanni Moretti, Mia Madre, qui a beaucoup ému. Le critique Jacques Mandelbaum, qui a beaucoup aimé le film, avertit ses lecteurs. Quinca et autres sexagénaires qui découvriront ce film le 23 décembre. « Aux frères et sœurs », écrit-il, « ce film vous est tout spécialement destiné par Nanni Moretti. Car Mia Madre, cette œuvre pascalienne qui enterre votre mère, voit partir vos enfants, vous fait douter de tous vos accomplissements et vous indique en un mot à quel point de dépossession le travail du temps finit par vous assigner. » Fin de citation.
Eh bien, ça promet. Mercredi aux États-Unis, c'était fini.
Oui, mercredi aux États-Unis, la chaîne CBS diffusait le tout dernier Late Show de l'humoriste américain David Letterman. L'ensemble des médias en ligne ou pas relayait du coup jeudi les bons moments et les bons scores d'audience de cette émission. 13 millions de téléspectateurs. Et dans cette émission d'adieu, après 33 ans de talk show, 4 ex-présidents se sont prêtés au jeu d'une séquence filmée, les Bush senior et junior, ainsi que Bill Clinton et Barack Obama.
Et aujourd'hui ?
Eh bien aujourd'hui, c'est Adrien Nazelli à qui je repasse la main pour conclure son dernier journal de la culture avec une info qui annonce déjà samedi.
L'enfant, c'est moi.
Adrien ?
Ça vous rappelle des souvenirs, Laurent ?
Oui, vous savez que j'ai fait du patinage artistique là-dessus.
C'est mon anecdote préférée, racontez-la.
J'ai gagné ma première médaille de championnat de France à l'époque, en patinage artistique, sur Marie-Myriam.
Eh bien, Marie-Myriam...
Moi, j'étais troisième, on n'était que trois. Hein.
Marie-Myriam, c'est sa chanson « L'oiseau et l'enfant ».
Oui, oui, bien sûr.
Elle est la dernière française à avoir gagné l'Eurovision il y a bientôt 40 ans, c'était en 1977. Et si j'avais envie de la passer, c'est que le 60e concours de l'Eurovision, c'est demain, en direct de Vienne. L'an dernier, c'est l'Autrichienne Conchita Wurst qui avait gagné avec « Rise like a Phoenix ». Cette année, notre représentante s'appelle Lisa Angel, avec deux L à la fin. Sa chanson, c'est « N'oubliez pas », un petit air de Lara Fabian, mais les critiques sont plutôt négatives. D'ailleurs, les pronostics prédisent une victoire de la Suède. Ce serait la 5e fois après la mémorable première place d'ABBA en 1974.
Eh bien, merci pour tous ces renseignements. Est-ce qu'il y a des réactions à tout ce que l'on vient d'entendre de la part de nos invités, Michel Portal, Fernando Solanas? Il se joue, je regarde comme l'autre, l'impression d'être à l'école. Le premier qui bouge va être interrogé. Michel Portal, quelque chose que vous voudriez commenter? Non. Fernando Solanas?
Non.
Juste un mot à propos de la télévision, parce que, bien sûr, vous êtes le documentariste et cinéaste que l'on connaît, mais vous avez, à une époque, pour financer vos films, au tout départ, travaillé à la télévision, fait des publicités et même autre chose. Vous avez des souvenirs de cette période-là, justement, quand vous travaillez à la télévision?
Non, je ne travaillais pas jamais à la télévision.
Ouais.
Non. Je faisais de la publicité,
ouais,
pour des clients privés.
Ah d'accord, c'était pas pour la télévision, d'accord.
Non, pas pour la télévision, non.
Jamais la télévision ne vous a tenté?
Bien tenté, mais j'avais des positions qui...
Qui ne permettaient pas de travailler à la télévision. On y reviendra.
19-20, le rendez-vous. C'est sur France Culture.
Plateau Carte Blanche avec vous, Michel Portal, compositeur et musicien culte, à la clarinette, au saxophone, au bandoneon, on vous connaît côté classique, Mozart autant que Berlioz ou Stockhausen, côté jazz évidemment, en pionnier du free jazz en France, et enfin côté musique de film, trois fois césarisé pour Le Retour de Martin Guerre, Les Cavaliers de l'Orage et Champ d'honneur. Je signale aussi que vous aviez signé la musique du film d'Oshima, Max Mon Amour. D'ailleurs, comment ça s'était passé avec Oshima? Ça s'était bien passé?
Avec Oshima, ça s'est passé très bien et c'est assez rare. C'est-à-dire qu'Oshima, il est arrivé avec le scénario et il est arrivé aussi avec la musique.
Ah!
C'est-à-dire qu'il m'a chanté la musique et moi, j'ai écrit en me cachant un peu. Et il faisait simplement des choses comme ça. Mais j'écrivais comme ça. Et j'avais toute une partition que j'ai mis dans ma poche. Et pour une fois, je suis rentré chez moi le soir, j'ai fait une maquette. Et le lendemain, je lui ai montré, je lui ai fait écouter, il m'a dit, c'est qu'incroyable. Vous êtes à côté de ce que je pensais, il me disait, vraiment, très bien, je comprends pas comment vous avez fait ça si vite. Ben non, je sais pas, enfin moi je lui ai pas dit, mais c'est très rare, hein. C'est très rare de savoir ce qu'on doit faire dans une musique au départ.
Je peux imaginer.
Lui, il avait déjà tout écrit un peu.
Manu Farine.
Oui,
le Théâtre du Châtelet.
Oui, bah, merci. Le Théâtre du Châtelet à Paris vous donne...
Il faut être au taquet, Manu.
J'étais en train d'écouter Michel Portal.
Ah bah oui, voilà. donc elle était en spectatrice, comme une auditrice.
Exactement.
Lambda.
Non, j'attendais que vous repreniez la main.
Non, je me décidais que hop.
Alors, direction le Théâtre du Châtelet à Paris, qui vous donne donc carte blanche le 27 mai, Michel Portal, pour un concert jazz exceptionnel qui rassemblera des partenaires que vous connaissez bien, le trompettiste nigérien Ambrose Akinmusir, le pianiste Boyan Zedd, le batteur Nashit Waits et le contrebassiste Scott Colley. Je sais pourquoi maintenant vous m'avez laissé la main, parce qu'il y avait tous ces noms à prononcer.
Bravo. C'est exactement ça.
De quoi donc reconstituer le quintet de votre dernier enregistrement, c'était en 2010 pour l'album Bailador, une formation... Oui. Quintet, donc, dans la plus pure tradition du jazz, alors qu'on vous connaît dans des configurations parfois nettement plus expérimentales. Qu'est-ce que cette formation-là vous permet?
Non, cette formation, puisque vous parlez un petit peu des autres formations qui sont très différentes dans la musique contemporaine, j'ai fait beaucoup de choses très très différentes comme ça. Je veux dire, cette formation, on pourrait dire que c'est comme du jazz. C'est-à-dire qu'il y a toujours la trompette, le saxophone, le piano. Alors les gens m'ont dit, quand j'ai fait ce disque, « Ah, tu veux faire du jazz maintenant ?» Ils m'ont dit ça, mais non, mais c'est pas... J'ai dit oui, c'est un exercice de style, je dis toujours, parce que bon, c'est vrai que le prochain disque que je ferai, j'ai pas envie de faire ça non plus maintenant, puisque je l'ai fait, j'ai envie de changer les musiciens, même les instruments. Donc c'est un exercice presque comme on fait un film un jour, on est sur une certaine voie dans le cinéma, et puis après on a envie de faire autre chose. Donc moi j'ai maintenant une autre idée pour l'instrumentation. Mais en ce qui concerne le Châtelet, c'est des musiciens que j'ai choisis, que j'aime beaucoup, et qui sont avec moi... j'ai pas beaucoup de problèmes. C'est-à-dire qu'ils jouent parfaitement ce que je leur ai demandé de jouer. C'est déjà pas mal.
Vous dites à propos d'eux, je sais qu'avec eux, ces musiciens, je peux me permettre toutes les libertés et donner à entendre où j'en suis aujourd'hui avec la musique. C'est-à-dire, où vous en êtes aujourd'hui avec la musique, Michel Portal?
Je ne sais jamais, parce que je suis toujours en train de chercher tous les jours, jusqu'à la fin, jusqu'au... Non, c'est pas ça le problème. C'est le problème de ce genre de musique, c'est-à-dire, j'arrive avec un thème, et comme on fait dans le jazz, eh ben, on refait jamais la même improvisation. Sure. Et bien heureusement, ce qui un petit peu... arrête un peu les gens qui font de la routine. C'est-à-dire que moi, j'ai fait toutes sortes de musiques. J'ai fait de la variété, j'ai fait de la pop musique, j'ai fait du rock.
Variété auprès de Barbara,
auprès de toutes ces musiques, je me suis jamais permis de faire que ce que je n'avais à faire. Alors que là, moi, je vais arriver sur scène, je dis... je sais pas encore ce que je vais faire, quoi.
Manu.
J'aime beaucoup cette... c'est une forme de... Ouais, de se manifester d'une autre façon. C'est-à-dire arriver devant un public et dire voilà, moi je sais pas. Comme si je vais jouer tout à l'heure, peut-être, je sais pas, mais je vais essayer. Je me suis appris à ça pour éviter aussi la routine. Parce que la routine, les gens sont très fatigués dans les routes quand ils jouent le même répertoire, ils n'en peuvent plus. Elle me demande qu'est-ce qu'on fait demain, le même haut. Bon, moi je...
Vous vous en gardez bien, Manou.
Quand vous entrez en jazz, Michel Portal, vous êtes encore au conservatoire, hein, vous avez une formation classique. Quelle était la place réservée à la clarinette sur la scène jazz en France à ce moment-là, c'est-à-dire à la fin des années 60?
Maintenant, il y a une profusion d'artistes qui sont arrivés, qui jouent très bien. Il y a beaucoup de musiciens qui sont arrivés. À l'époque, il y avait très peu de musiciens. On parlait d'un clarinettiste, deux. On parlait de trois saxophonistes. On parlait de deux pianistes. On parlait de deux batteurs. Et c'était pratiquement tout. Le reste, c'était des orchestres pour faire danser. Donc tout ça, ça a progressé. Maintenant, ça a éclaté. Ça a éclaté. Non, il y a beaucoup de musiciens maintenant. Beaucoup. Ouais.
La clarinette, vous la choisissez à l'âge de 6 ans, après avoir déjà approché la flûte, la mandoline, le basson, le cor. Qu'est-ce qui vous a décidé à l'époque pour cet instrument réputé particulièrement difficile, notamment pour sa large...
Je vais faire très vite parce que je suis d'une famille de musiciens.
Ouais.
Alors, il y avait une harmonie chez moi, mon grand-père dirigeait l'harmonie, puis quand j'ouvrais la porte, il y avait je ne sais combien d'instruments, il y avait ces mandolines, il y avait ceci. Donc, je prenais les instruments chaque jour différents. Je dis, tiens, la contrebasse, tiens, voilà. C'est un peu comme ça que j'ai fait ça, mais ça s'est fait... naturellement.
Pourquoi vous avez choisi le piano? Parce que tout à l'heure, on parlera de votre parcours de cinéaste, Fernando Solanas, mais au départ, il y avait une formation pianiste et de composition. Famille de musiciens aussi?
Non, pas du tout, mais j'adorais la musique. C'est l'unique raison. J'avais 12, 13, 14, 15 ans, et j'ai volé avec la musique. Alors, j'avais plus envie d'être musicien que les conditions que j'avais pour être musicien. J'étais un petit chien de la musique. Malgré tout l'effort que j'ai fait, j'ai étudié avec des grands, j'ai étudié avec Alberto Ginastera, Juan Carlos Paz, qui était l'initiateur, le premier compositeur qui a mené toute la théorie dodécaphoniste à l'Argentine, etc. J'adorais la musique, j'ai fait la critique musicale, etc. Mais j'adorais autre chose aussi.
Beaucoup de choses. Beaucoup. Le cinéma, le théâtre, on en parlera. Manou.
Michel Portal, donc, là, on l'a entendu, la clarinette arrive tôt, hein, mais il y a aussi un autre univers musical dans lequel vous avez commencé par baigner, qui est celui de votre pays d'origine, hein, du pays basque et de la musique basque. Qu'est-ce que cette origine-là vous a appris musicalement? Je pense en particulier aux rythmiques assez complexes de la musique traditionnelle basque.
Je n'ai pas touché beaucoup au folklore basque, pas beaucoup. Simplement que j'ai hérité peut-être de la danse. La danse est très important parce que moi j'aime bien les gens qui jouent avec le sens de la danse. Souvent j'ai demandé à un batteur de jazz de danser, il ne sait pas. Donc je dis ça c'est curieux quand même. On ne joue pas avec les poignets comme ça, on joue avec son corps. Comme moi quand je souffle, je sens que le souffle c'est quelque chose qui doit sortir du corps et c'est ça qui donne un son. C'est pas une clarinette, c'est moi qui va donner ce son là et c'est important. Dans chaque instrument, il faut s'investir avec le corps.
Quelle est la particularité de celle-ci, de clarinette, celle avec laquelle vous êtes venu? Parce que je crois que vous en avez plus d'une vingtaine, Michel Portal. Vous en avez apporté
ça, c'est
une.
La clarinette avec laquelle on joue Gershwin, la Rhapsodie Gershwin, où on peut jouer, pas le concerto de Mozart avec ça, non, ça. Parce que la clarinette qui joue le concerto de Mozart, elle est un peu plus longue. C'est une clarinette en la. C'est une clarinette en si bémol, qui est un peu plus aigre. Un peu plus aigu, évidemment, mais qui a tout un répertoire contemporain qui est très grand aujourd'hui, avec lesquels les compositeurs comme Weber, mais Mozart, jamais. Parce que Mozart, il adorait le son très doux. Et ça, à l'époque, on jouait de la clarinette, mais on entendait très peu les instruments. Après, les instruments se sont développés par la modernité. Il n'y avait pas toutes ces clés, il n'y avait pas de clés. On jouait avec les doigts, comme ça, on bougeait les doigts, mais il n'y a pas de clés. Et les sons étaient très très petits, on jouait dans des petites églises, où le son, hein, il fallait vraiment écouter. Aujourd'hui, on joue devant 3000 personnes, donc il faut des instruments qui éclatent, quoi. C'est ça l'histoire, mais bon, c'est comme ça.
Et ici, en studio, si on vous demandait d'improviser quelque chose, sur quel thème serait l'improvisation avec cette clarinette, Michel Portal?
Un thème?
Ouais.
Je n'ai pas demandé, moi.
Celui qui vous passait par la tête. Tout à l'heure, vous disiez que vous alliez peut-être improviser sur un thème que vous ne connaissiez pas vraiment.
Je ne connais pas, non. Non, là, je ne connais pas. Non, j'ai envie de... de dialoguer quelque chose, là, sur quelque chose, maintenant, je peux faire ça.
Alors, peut-être pour vous aider, comme à tous nos invités cette saison, Michel Portal, on vous a demandé de choisir un son, et vous avez apporté celui-là.
Cet exemple, parce qu'il fait partie du souffle, et aussi je parlais du côté acousticien de l'histoire. C'est-à-dire, cette clarinette, elle a disparu. Ce que l'on entend.
Mais nous dire ce qu'on entend.
Pardon.
Ce qu'on entend, c'est.
Ça, c'est Lester Young. Bon, qui voulait imiter Billie Holiday avec la clarinette, il voulait chanter quand même. Mais ce que je voulais dire, je l'ai choisi parce que c'est comme un instrument d'autrefois, ça. Il a disparu avec le bruit infernal qu'il y a sur les scènes aujourd'hui. Il y a des voltmètres, c'est infernal, quoi. Alors, ces petits instruments qui sont fragiles, comme l'Astérium, ils passent plus. Alors, on n'en joue plus. Ce genre de musique peut se jouer dans des... C'est peut-être comme de la musique de chambre.
De chambre, ouais.
Mais pour jouer comme ça, non, il faut avoir un micro là, un micro là, un micro là, un micro là, dans ces instruments-là. Donc, ça a changé. Et la musique a changé à cause de ça. À cause du fait, on ne peut pas se libérer quand on est... avec de l'électricité partout, quoi. On peut pas. C'est pour ça que j'ai amené cette clarinette,
ouais.
Et que si j'improvise, j'ai tout mon temps parce que je suis dans l'acoustique. Je suis dans les derniers acousticiens, peut-être finalement, parce que les instruments, avec les synthétiseurs, avec tout ce qui arrive, vont petit à petit disparaître parce que ça, c'est des instruments qui sont très vieux, très vieux.
On vous laisse improviser.
Ouais. J'ai pas joué ça.
Non, ce que vous voulez. Michel Portal quitte son fauteuil, regagne les micros du studio 168, la maison de la radio. Thank you. beaucoup, merci. Pas que la clarinette dans ce parcours, il y a aussi le saxophone et parfois le bandoneon. Quand l'avez-vous rencontré cet instrument ?
Je suis très heureux de
d'être face à
rencontrer Vincent. Bah alors, parce que vraiment, je pourrais le jouer sourd, évidemment. Je connais ça par cœur. C'est un. Si je parlais du Elle sourde, ce film m'a complètement.
On en parlera tout à l'heure.
Oui, bon.
On en parlera avec.
Donc le bandoneon, bah, toujours pareil. C'est-à-dire, moi, j'ai jamais voulu me fixer, jamais. J'ai toujours continué sans chercher où j'allais. J'ai pas de stratégie, jamais rien. Personne m'a rien dit. Et toujours par-ci, par-là. Et à gauche, à droite. Mais où vas-tu? Mais je ne sais pas. Mais j'avance toujours. Et tous ces trajets que j'ai faits, je veux pas savoir. Alors, le bandoneon, je vois quelqu'un, un Argentin, quelqu'un qui avait joué avec, il y a très longtemps, avec Dicepolo, qui est très vieux. Et donc, il passe dans la frontière espagnole, il tombe malade, et puis il est à l'hôpital. Et mon père me dit, il y a quelqu'un qui joue du bandoneon, dans l'hôpital, à Cambo. Donc, je suis allé le voir, il m'a dit, je vous apprends le bandoneon. J'ai appris le bandoneon avec lui, c'est tout. Voilà.
Ah oui, quand
mais
même.
Mais bon, mais c'est pas comment dire. C'est l'amour, comme a dit
Fernando Salinas. Hein.
C'est l'amour de la musique qui m'a guidé. Moi, si je ne fais pas de musique, je ne fais rien. Vous me mettez hors de la musique, je ne fais rien. Je ne sais pas quoi faire. Bon, je suis dans la musique comme ça.
Jusqu'au cou, au-dessus du front.
Non, mais voilà, j'ai vécu pour la musique, c'est tout. C'est un sacrifice. C'est un sacrifice parce que la musique, c'est dur. C'est très dur aussi. Faire un film aussi, c'est très difficile, très dur. Mais hier, j'ai donné un concert aussi. Je suis un peu comme ça, quoi. Vous voyez, et à chaque fois, évidemment, quand on monte un peu, alors qu'est-ce qu'il va faire maintenant? Alors qu'est-ce qu'il va faire maintenant? Alors qu'est-ce qu'il va faire maintenant? C'est toujours pareil. C'est comme si c'était des concours un peu. Alors moi, j'essaie de fermer les yeux. Je dis, bah, je ne peux pas savoir.
Le rendez-vous, la chronique.
Michel Portal et Fernando Solanas, on vous retrouve dans quelques instants, mais tout de suite, c'est la chronique revue et corrigée. Quel jeu de mots, j'ai un génie.
Je l'adore.
De Thomas Clerc. Chaque vendredi, Thomas à ce programme ce soir.
Sophie. Je n'ai compris ce jeu de mots que très tardivement.
Revue et corrigée, oui, avec un E.
Oui, je le trouve très beau.
Moi aussi.
Alors j'ai pris Sophie, bravo, mensuel de cinéma nantais, édité par des éditions nantaises, qui fait partie d'un consortium regroupant également SoFoot et Society, chroniqué par mon double avec la dent de la mauvaise foi le 10 avril pour l'un et le 25 mars pour l'autre. Alors c'est le numéro 30 et il vaut 4,90€ et il se positionne, comme on dit parfois quand on est mal élevé, dans le champ déjà bien occupé des magazines de cinéma. Alors comme je m'intéresse plus guère au cinéma contemporain, c'est un trait de vieillissement bien connu, j'étais un peu prévenu d'avance à l'idée de lire des articles sur des gens qui me sont inconnus, et j'ai très peur des cascades de noms propres que l'actualité déverse à longueur de sceaux.
Enfin, il y a quand même Godard en couverture.
Oui, voilà, j'ai été sauvé, hein. So what? Sophie, justement, a cet argument massu en couverture. JLG himself, pleine page, un doigt dans les poches, veste et pull collant V, regard caméra, entretien hirsute, de 13 pages mené par Thierry Lounas, un ancien des cahiers du cinéma. Alors le maître, avec sa verve habituelle, parle de tas de choses, Marine Le Pen, le foot, Charlie Hebdo, les salauds, les intermittents, la Grèce et la glande avec Coppola. C'est palpitant comme d'habitude, puisque la parole de Godard est semée de ces fulgurances qui manquent cruellement aux gens de la profession qui est la sienne. Mais comme disait Louis Jouvet à un cabotin, nous ne faisons pas le même métier. Alors je ne donne qu'un exemple du génie sémiologique de JLG, on lui demande « Vous êtes Charlie ?» Il répond « Je suis Charlie » du verbe « suivre » et je le suis depuis 40 ans.
Excellent.
Il suffit de regarder le langage pour trouver évidemment la solution des problèmes. « Je suis Charlie » est problématique. Si c'est le verbe être, le verbe de l'identification, je suis Charlie est libérateur, si comme le suggère Godard, c'est le verbe suivre qui désigne une action, toujours révocable. Et voilà le problème auquel toute la France est confrontée actuellement, sinon résolu, du moins posé. C'est ça le cinéma, c'est pas seulement de l'image, comme le croit Luc Besson, c'est aussi du verbe. Et le verbe dans ce film, il est plutôt contemporain, c'est-à-dire relâché avec ce ton habituel dans la presse branchouille, qui est à l'unisson des gens qu'elle traite, notamment les acteurs, un tel Guillaume Canet ou la charmante Vima Laponce. Les deux sont très physiques, très entiers. Mais le paradoxe de Sophie, c'est que sa rhétorique frontale, testiculaire si vous préférez, entre en collision avec pas mal de thèmes rétro qui ont été pour moi salvateurs, puisque j'avais du celluloïd à mettre sur mon marbre. Un reportage sur la doublure d'Anita Ekberg dans la Dolce Vita, une analyse de la BO de mort de Barbet Schroeder, un retour sur l'armée des ombres de Jean-Pierre Melville, plus de sympathiques photos des Teletubbies, ces créatures post-chrétiennes. Terrain inconnu, balisé, repéré, l'ensemble est donc très lisible et ce film, anagramme de Filmos, se donne pour ce qu'il est, une revue à trouvailles.
Ah, certes, on fait pas un film, ni une revue d'ailleurs, ni même la cuisine, avec des trouvailles, des effets, mais pour une lecture cabine, ça passe plutôt bien. Une amusante et instructive chronique sur les 10 films qui ont les titres les plus longs. Par exemple, un film de Scola. Nos héros réussiront-ils à retrouver leur ami mystérieusement disparu en Afrique? Un film de 68 que je n'ai pas vu. J'avoue mon faible pour votre réalisateur préféré, Laurent, qui a réalisé « Mieux vaut être riche et bien portant que fauché et mal foutu ».
J'étais sûr que c'est Max Pécasse ou c'est voilà. Philippe, je ne sais pas trop quoi.
Max Pécasse. Bref, le numéro se conclut aussi par une BD désopilante de Erwan Terrier qui imagine une usine de super-héros avec une portée de Superman et un dépeçage de l'homme-araignée. Quand les résultats d'exploitation sont moins bons qu'attendus, on abat le cheptel et on fait de la viande à reboot. Espérons un autre sort à ce film.
Le rendez-vous.
Merci Thomas, on se retrouve la semaine prochaine pour une autre revue et corrigée. Plateau Voyage avec vous, Fernando Solanas, cinéaste et homme politique argentin. Eh oui, vous êtes l'auteur d'un documentaire qui a marqué le genre en 69, L'heure des brasiers, on y reviendra. En 75, Passage à la fiction avec Les fils de Fierro et puis Un exil d'une dizaine d'années. Vous rentrez en Argentine et vous tournez deux films, Tango, l'exil de Gardel, grand prix spécial du jury à la Mostra de Venise en 85 et puis Le Sud, prix de la mise en scène à Cannes en 88. C'est Le Sud qui vient d'être présenté d'ailleurs à Cannes actuellement en version restaurée dans la sélection Cannes classique. Un film qu'on retrouve aussi dans votre intégrale en coffret DVD édité chez Blockout. Alors en guise de bande-annonce, notre réalisateur a collé deux moments chantés de ce film.
El corazón solo, perdón y después sur, una luz de almacén, ya nunca me verás como me vieras. Recostado en la vidriera esperándote. Vuelvo al sur, como se vuelve siempre al amor. Vuelvo a vos con mi deseo, con mi temor. Llevo el sur.
Benoît.
Alors Thomas Beau a rapproché ces deux chansons, celle du début du film, Sourd, d'Aníbal Troilo et Homero Manzi, et puis Vuelvo al Sur, d'Astor Piazzolla, sur un de vos poèmes. En quoi votre film, Fernando Solanas, serait finalement aussi un hommage d'un cinéaste à un poète et musicien, Aníbal Troilo, que vous présentez, c'est dans les bonus du DVD qu'on l'apprend, comme une sorte de Duke Ellington du tango?
C'est tout à fait comme ça, hein. Oui. C'est tout à fait comme ça. Quand j'ai fait Tango, l'exil de Gardel, j'avais rêvé de faire le film de mon retour. Le Sud, que c'est un tango classique de les années 40, Aníbal Troilo et Homero Manzi, le sujet c'est quelqu'un qui retourne à son quartier et cherche le souvenir, peut-être plus, de son amour de cette époque-là. Mais le retour c'est toujours une opération dramatique parce que tout a changé, la réalité a changé et aussi la personne qui retourne a changé aussi. Mm-hmm. Voilà le thème du film. Et j'avais l'idée de tourner ça. Tango, ça avait été un film construit sur une structure chorégraphique. J'ai pensé faire le film de l'exil intérieur sur, avec un collier de tangos classiques. Mm-hmm. Tango classiques.
Les classiques, hein? Oui.
La plupart sont d'Aníbal
Troilo. Oui, Dicepolo aussi.
Aníbal Troilo était là.
Troilo.
Troilo, Astor Piazzolla.
Non, oui.
Il était bandoneoniste de Troilo.
Oui, je sais. Oui, je sais.
En plus, arrangeait les tangos. Oui. Mais comme Astor, il était un type très inquiet.
Oui.
Il avait commencé à étudier la musique sérieusement avec Alberto Ginastera.
Bien sûr. Ginastera, oui.
Faisait des arrangements. Mm. Compliqué,
oui.
Pour Troilo. Et un jour, il a dit, Troilo, non, mon vieux, on ne peut pas te suivre. Et alors, énervé, Astor Piazzolla, paf, a claqué la
il
porte.
Il est parti.
Il a parti à étudier en France avec Nadia Boulanger.
Nadia Boulanger, oui.
L'histoire extraordinaire est que Astor refusait déjà le tango. Avait rentré dans le Parnasso de la grande musique.
Bien sûr.
Et une fois, en attendant à Nadia Boulanger, a commencé à jouer un tango, le piano. Arrive Nadia et écoute ça. Qu'est-ce que c'est ça? Et avec certaine honte, Astor dit, non, c'est un tango à moi. Ah,
c'est beau.
Alors j'ai trouvé quatre personnes. Vous m'avez porté des œuvres symphoniques, des caméras, etc. Oui. On trouvait tout, on trouvait Stravinsky, Hamlet, Béla Bartók, on trouvait
bien
à tous,
oui.
Mais je ne trouvais pas Piazzolla.
Bien sûr, bien sûr.
C'est ça Piazzolla. Et alors, à partir de sa retourne à Piazzolla, il va constituer l'Octet Buenos Aires.
Oui, bien sûr.
Que c'est la naissance de la musique vraie de l'Astor Piazzolla.
Exactement. Électronique aussi, il y avait
Michel Portal
aussi.
Oui. Ah. Je le connais bien parce que dans cette époque, j'étudiais, l'époque de que j'étudiais musique, et on allait au café concert, petit café concert, où jouait Astor Piazzolla. Et on attendait, à la sortie, est-ce qu'on peut vous amener le bandoneon?
Ah, ça.
Et comme ça, on arrivait au café, et on prenait un café, on a fait une amitié depuis longtemps. Je suis formidable les explications qu'a donné Michel Pascal sur le procès créatif. Il est un mythe du procès créatif.
Oh là là.
Que le procès créatif, c'est quelque chose bien planifié, structuré. C'est vrai que deux frères artistes ne travaillent également.
Bien sûr.
Chacun, il a ses goûts, sa façon de se mettre dans l'instrument. Mais la vérité est que la création, c'est toujours, dans n'importe quel, c'est un voyage. On connaît bien le point du départ. Quelquefois, on connaît le point de l'arrivée. Mais les choses plus importantes, c'est le voyage, que c'est le procès de l'invention du film, ou l'invention de la partiture musicale, que c'est commencé à le faire. C'est imprévisible. C'est imprévisible, ça.
Alors justement, pour le film Le Sud, à l'époque, c'était aussi un moyen, on le comprend quand on regarde, de parler de la transition vers la démocratie en Argentine. En quoi ce film a pu annoncer votre engagement politique futur au sein du parti de centre-gauche Le Frepaso dans les années 90, puisque je rappelle que vous serez député en 93 et en 97, puis quand vous vous présenterez plus tard aux élections présidentielles de 2007 contre Cristina Kirchner. En quoi ce film a pu préfigurer cet engagement politique futur?
J'étais très engagé depuis mon adolescence. J'avais étudié plusieurs langages artistiques, la musique, le théâtre, j'ai fait tout l'École nationale du théâtre, fréquenté des ateliers de peintres. Mais mon premier film, finalement, était L'air de Brasier.
Ouais. Le documentaire, trois films, entre 2h et 45 minutes.
J'ai voulu faire l'essai cinématographique, l'équivalent à un essai historique politique. Et alors, il est divisé en capitres, etc. Mais le sujet était tout le sujet, le grand temps qu'on vivait à l'Argentine pendant des dictatures et dictatures, etc. C'est un grand film de dénonciation, mais avec la réflexion. Et j'étais toujours, pratiquement, ces sujets de la recherche de l'identité de mon pays, de la recherche de la démocratie et la liberté, dans tous mes films.
Bien sûr.
Évidemment, le Sud, c'est une sorte de chant au retour de la démocratie. C'est un film que j'ai commencé. Non, j'ai commencé à le tourner en 1987, mais j'ai retourné à l'Argentine en 1983. Évidemment, non, j'étais dans cet engagement, mais cet engagement m'a emporté à que dans l'année 91 ou 90, j'ai dénoncé la grande corruption du gouvernement de Carlos Menem avec ce processus de privatisation du patrimoine public. Et je l'avais dénoncé avec des gros paroles, j'avais dit qu'il était le chef d'une bande de délinquants qui volaient le patrimoine public. Il a fait un procès pénal pour calomnie injurie, j'ai ratifié tout, et la veille j'ai reçu 6 tirs de balle dans mes jambes. 9 mois de réhabilitation, dans ce moment j'étais en train de finir le montage de Le Voyage, qui devait sortir en 91. Et finalement a sorti, il était présenté à Cannes en 92. Et c'est ça qui m'a porté vers la politique.
D'accord.
Il avait envie politique dans le pays, j'étais un homme public avec un grand soutien de la jeunesse et tout ça a fait une énorme pression sur moi. Mais en plus, j'avais dit toujours que le référent politique, ou le référent culturel d'un pays, dans un moment de sa vie, doit faire un acte de dévolution, de gratitude au pays qui a contribué à sa formation. Parce qu'on est né, on se construit seul. On se construit dans une société qui t'a donné beaucoup de choses. Tu arrives dans la nuit chez toi, tu fais clic et la lumière. Hein? T'a donné l'école, t'a donné tout ça. Alors, dans un moment de la vie, chacun, je pense que chacun doit faire une contribution, pas pour rester et s'immoler pour le pays, mais faire une contribution à son pays. Et dans ce cas-là, c'était très important, parce qu'il était un moment d'une énorme corruption, etc. Après, bon, c'est difficile de sortir.
J'imagine.
C'est difficile de sortir. Je pense que je suis dans le moment où j'ai commencé à sortir.
Michel Portal, tout à l'heure, vous disiez qu'il n'y avait que la musique. Est-ce qu'il y a eu aussi un engagement politique de votre part ?
Oh, vous savez, à l'époque du free jazz, j'étais c'était pas ça. Avec. Il y avait une espèce de souffle qui arrivait par derrière, qui vous menait par l'avant. On fait de la politique, mais il faut qu'en face aussi les gens acceptent ce que. Sinon, c'est la bagarre, parce que bon, ce que disait tout à l'heure. Le souffle que je souffle, moi, quand je joue parfois, je fais des choses assez violentes, je suis assez violent. Et quand je fais des choses violentes, c'est certainement des paroles, il y a des paroles, mais j'ai jamais mis une pancarte devant moi en disant, bon, j'ai joué avec des gens qui étaient très très motivés, tous les Black Panther qui jouaient avec
bien
moi,
on
savait ce qu'ils faisaient, ils faisaient des choses assez violentes, quoi. Mais il y a des gens qui n'ont pas résisté à ça, hein. Par exemple Albert Ayler, si je parle d'Albert Ayler, c'est des gens qui ont disparu. Mais bon, pour moi, oui, mais je n'en parle pas.
Très bien. Benoît Lagan.
Bernardo Solanas, donc votre film Le Sud a été restauré. Au départ, le film était en format panoramique. Vous avez dû, j'ai pu lire, diminuer un petit peu le film. Vous dites que ça n'a pas été facile pour vous parce que vous êtes un cinéaste du grand angle et des profondeurs de champ. Comment se fait-il que votre regard soit justement celui du grand angle ?
Bon, ça sont des choses mystérieuses dans la vie, peut-être, parce que il était tellement difficile de tourner dans mon pays. Et telle quantité de choses que je voulais m'exprimer, que peut-être j'ai toujours rêvé avec raconter ici, mais raconter aussi avec l'entourage, les choses qui passent derrière, et alors cherchant toujours la fougue, etc. Je pense que, pour revenir aux choses que disait Pascal, l'acte créatif, ou le processus créatif, rien à voir avec l'ordre. Rien à voir. Il n'existe rien plus capricieux et chaotique que le processus créatif. Je me sens dans le computer, je vais écrire la scène numéro 7. Je l'écris, professionnellement c'est pas mal, mais il n'y a pas aucune idée. Mais me fait dans la tête, parce que j'ai vu quelque chose, j'ai rêvé quelque chose, c'est mieux écrire sur ces choses. Et alors, il est plein dans le processus créatif des idées qu'on trouve dans le chemin. Picasso disait, il faut aller à la forêt si vous voulez trouver des fruits du bosque, hein, de la forêt. Et alors, on cherche des choses extraordinaires et on les met différents archives. Et après, ces filles de la veste rouge, rien à voir avec cette histoire, mais un mois après, ces filles a été la fille que lui cherchait. Vous comprenez? Les choses, c'est chaos, ces processus. Je suis tellement intéressé par ce sujet que j'ai fait une recherche sur ce sujet et j'ai fini pratiquement un film. Me manque le montage, que sera dur. Trois créateurs argentins de la même génération, sans avoir parlé, nous avons travaillé avec la même méthodologie.
C'est-à-dire qui?
Le père de Gaspard Noé, c'est le plus grand peintre vivant de l'Argentine.
Ah oui?
Si. Noé, Felipe Noé. Et l'autre, c'est un grand auteur dramatique, aussi psychoanalyste et extraordinaire, comédien que c'est le protagoniste de mon film Les Nuages. Et beaucoup de ces pièces ont été interprétées en France, on était à Avignon, Trintignant a été protagoniste, il a mis beaucoup de ces pièces. C'est Eduardo Pavlovsky. Et les trois, nous sommes amis depuis 40 ans. Film, c'est comment nous faisons, quelle est la cuisine de notre œuvre. Finir avec la mythification du processus créatif. Le processus créatif, c'est un processus douloureux, confuso, chaotique. Borges a corrigé ses poèmes. La moitié de ses poèmes les a corrigés. 40 ans après, quand on a fait l'édition complète de ce,
son travail.
De ce travail. Alors, toujours. On finit un film, on finit une composition, parce qu'il enfin, faut le finir. L'éditeur dit sinon, il ne sort pas ton bouquin. Mais il n'a pas. L'œuvre artistique, il n'a pas la fin. Évidemment qu'il y a des gens comme Besson, Ofor, l'Américain, etc., qui faisaient. Mais j'ai traité de grand du cinéma. J'ai posé cette question à Fellini. J'ai fini mes premiers films en Italie, je m'avais fait. J'étais presque adopté pour ces gens-là. Il m'invitait à voir ce tournage.
Fellini, ouais.
Un improvisateur absolu. Ouais. Absolu. Mm. Changez tout le temps.
Ouais, ouais.
Il faut voir un moyen métrage avec tous les shoots de les courts-métrages de Chaplin pour voir que Chaplin arrivait à faire 100 prises del même sketch. Vous comprenez ça?
Oui, oui. Sans ça, prise pour le même sketch.
Et comment c'est trouver l'improvisation une idée supérieure. Il faut voir le film de Clouseau sur Picasso. La caméra derrière Picasso. Picasso finit un tableau et la dernière minute s'arrête. Trois pas en arrière. Réfléchir. Reviens. Et fasse tout. Il reste avec ce morceau, il recommence.
Hey.
Non, la recherche, le procès créatif, c'est une recherche dans les ténèbres, et on ne sait pas exactement. On cherche, et c'est l'intuition. La lanterne, c'est l'intuition. C'est la nuit et la lanterne, c'est l'intuition. Évidemment, on trouve quelquefois le trésor, et alors c'est le moment. On peut voir un verre de vin avec Dieu. Merci, Dieu. Quelque autre chose, que la plupart des moments, on fait des solutions professionnelles. Qu'est-ce que c'est ça?
Ah, c'est beau.
J'ai volé avec la musique.
Ouais, ouais.
Merci à nos invités. Michel Portal, votre carte blanche au Théâtre du Châtelet Paris. C'est mercredi prochain à 20h. Fernando Solanas, le coffret DVD Fernando Solanas, l'intégrale cinéma. Il faut attendre le 2 juin aux éditions Blackout. Ça, c'était pour aujourd'hui. Demain.
Les fleurs, c'est un classique des femmes trompées. Le mari va voir sa maîtresse, puis il revient avec un bouquet de fleurs. Alors avant, quand je te voyais arriver avec des fleurs, je pensais que ça se passait mal. Oh non, je te fais confiance.
Demain, il faudra attendre lundi. Ce sera une émission cinéma et théâtre avec Clotilde Courau que l'on vient d'entendre. À ses côtés, Stanislas Nordet. Et je me suis trompé sur la date pour l'intégrale aux éditions Blackout. Ce n'est pas le 2 juin, c'est le 17 juin. La désannonce, Elsa.
C'était le rendez-vous de Laurent Goumard, une émission préparée par Manu Farine, Benoît Lagan, Aïssat Wendoy et Elsa Béranger. Actualité culturelle, supplément week-end, Benoît Lagan et Adrien Nazelli. Chronique, Thomas Clair. À la prise de son, Yannis Djoudad et Clément Daté. Et à la réalisation, Thomas Beau. Vous pouvez réécouter l'émission pendant 1000 jours et la podcaster sur le site franceculture.fr et rejoindre la grande famille du rendez-vous sur Facebook et Twitter.
Une émission qu'on peut réécouter pendant combien de jours ?
1000 jours.
Il est 19h54, vous êtes sur France Culture. Mais c'est bien.